Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mercredi 25 janvier 2023. Avec vous, Eric Mandakiza, voici d'abord le sommaire. Le Rwanda accuse la RDC d'avoir violé son espace aérien. Kinshasa dément. Au Sénégal, l'ex-première ministre Aminata Touré déchue de son poste de députée. En Guinée, un responsable de la société civile placé en détention. Ici aux États-Unis, un tireur tue 3 personnes avant de se suicider dans l'ouest américain de Washington. L'ancien vice-président américain Mike Pence est rattrapé par l'affaire des documents confidentiels en Ukraine. Berlin s'achemine vers un accord de livraison des chars Léopard. Chan Algérie 2022. Les derniers matchs de la phase de groupe ont connu des surprises. Vous aurez plus de détails dans les sports de Yacouba Ouédraogo. La situation macroéconomique de la RDC s'améliore, tandis que la gouvernance reste préoccupante. Nous en parlons dans la page économie, mais d'abord le journal. Un avion de combat de la RDC a essuyé des tirs hier après-midi à son atterrissage à l'aéroport de Goma. Kigali affirme que l'appareil a violé son espace aérien et met en garde Kinshasa qui a dénoncé une attaque. Eddy Issango.
La tension est encore montée d'un cran. Le porte-parole du gouvernement du Rwanda a indiqué dans un communiqué que Kigali a pris des mesures défensives contre un avion du type Sukhoi 25 de la République démocratique du Congo qui aurait violé son espace aérien. Côté Kinshasa, le porte-parole militaire a confirmé à VOA Afrique que l'avion a bien essuyé des tirs en provenance du Rwanda. Il précise cependant que cet avion était bien du côté congolais et amorçait plutôt sa descente depuis les lacs Kivu pour l'aéroport de Goma. Pour sa part, le gouvernement de Kinshasa, dans un communiqué, a immédiatement condamné et dénoncé violemment cette attaque et dit se réserver les droits légitimes de défendre son territoire national et promet de ne pas se laisser faire. Kigali accuse Kinshasa de récidive et rappelle que c'est la troisième fois qu'un tel incident s'est reproduit. En juin dernier, un avion Sukhoi de la RDC avait brièvement atterri à l'aéroport de Rubavu avant de découvrir. Après cet incident, Kigali avait mis Kinshasa en garde.
Au Sénégal, Aminata Touré, dite Mimi, ancienne première ministre, a été déchue de son mandat parlementaire par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est le dénouement des tensions nées entre elle et la coalition au pouvoir depuis l'installation de la nouvelle législature. Seydina Abagay.
Aminata Touré, dite Mimi, n'est plus députée. Ainsi en a décidé le bureau de l'Assemblée nationale suite à une demande du camp présidentiel dont elle était pourtant membre avant de prendre ses distances. Mimi, qui a dirigé la liste de la coalition au pouvoir lors des dernières législatives, s'est depuis muée en farouche adversaire du président Macky Sall, qui a donc décidé de l'éjecter du Parlement via sa majorité. La principale concernée n'a pas tardé à réagir. Pour elle, son exclusion de l'Assemblée nationale est une totale violation de la loi. Mimi Touré ajoute qu'elle reste plus que jamais déterminée à poursuivre son combat pour l'enracinement de la démocratie sénégalaise et contre la tentative de troisième mandat du président Sall qu'elle juge moralement et juridiquement inacceptable. Pour comprendre cette brouille entre le chef de l'État et son ancien numéro 2, il faut remonter à l'installation des députés élus à l'Assemblée nationale le 12 septembre 2022. D'après l'ancienne Premier ministre, le président Sall lui avait promis la présidence de l'Assemblée nationale avant de se rétracter pour donner le poste à un proche de sa famille. Depuis, Aminata Touré s'est démarqué du camp présidentiel avec des sorties contre le régime et surtout en déclarant sa candidature à la présidentielle de 2024. Autant d'éléments qui ont donc abouti à un divorce qui s'est avéré inévitable entre elle et son camp.
En Guinée, la justice a placé ce mardi en détention une figure de la société civile poursuivie pour avoir organisé une réunion dite illicite. Claire Morégibourg.
Mamadou Biliba, responsable de la mobilisation du Front National pour la défense de la Constitution, a été déféré mardi devant un tribunal de Conakry, puis inculpé et écroué pour organisation de réunions illicites et incitation à la violence, d'après Abdoulaye Oumousso, chargé de la communication du FNDC. Monsieur Ba a été arrêté lundi en sortant d'une réunion avec des citoyens du quartier Tombolia à la périphérie de Conakry. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, une autre coalition de partis et d'associations, a dénoncé vigoureusement lundi cette arrestation dans un communiqué distinct. Créé en 2019, le FNDC a mené pendant de longs mois la contestation contre le troisième mandat du président Alpha Condé, finalement réélu en 2020, mais renversé moins d'un an plus tard dans un putsch dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Le FNDC est resté actif sous la junte, réclamant le retour rapide des civils au pouvoir. La junte a interdit toute manifestation et prononcé la dissolution du FNDC. Deux autres dirigeants de cette coalition, Oumar Sylla, alias Fonike Mangé, et Ibrahima Diallo, sont toujours détenus depuis juillet dernier.
L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est jugé à partir de ce mercredi sous l'accusation d'avoir abusé du pouvoir pour amasser une fortune immense. Sans nier être riche, M. Aziz a refusé de s'expliquer sur l'origine de sa fortune, écrit à la machination. Il se présentera au tribunal pour défendre son honneur contre des accusations extravagantes, a-t-il écrit mardi dans une déclaration transmise par un de ses avocats. Un responsable sécuritaire a laissé entendre que sa dizaine de co-accusés avaient connu le même sort. Une vague de chaleur étouffante qui a balayé certaines parties de l'Afrique du Sud ces dernières semaines a fait au moins 8 morts en plusieurs jours, a annoncé hier le gouvernement. Certaines parties du pays ont connu une canicule avec des températures atteignant 40 degrés certains jours.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une série de nouvelles fusillades aux États-Unis. Au moins 3 personnes sont mortes ce mardi dans une tuerie dans l'État de Washington. Après 2 autres tueries de masse en Californie, ces 3 derniers jours. Rosine Monezir.
Dans la toute dernière fusillade, 2 adolescents ont été tués par balle dans un centre éducatif de moines dans l'Iowa. Le tireur présumé, âgé de 18 ans, a été arrêté et inculpé pour homicide volontaire, tentative de meurtre et appartenance à un gang. Un autre drame a eu lieu autour d'une épicerie de Yakita sur la route de Seattle. Le suspect, dont l'identité reste inconnue, est toujours en cavale. 3 personnes ont été tuées sur place. Ces nouvelles tueries surviennent après 2 autres en Californie. 7 travailleurs agricoles sont morts lundi dans 2 fermes de Half Moon Bay, près de San Francisco. Après une course-poursuite, le tireur s'est rendu à la police. Déjà samedi soir, à Monterey Park, près de Los Angeles, les célébrations du Nouvel An chinois se sont transformées en carnage. Un septuagénaire d'origine asiatique a tué 11 personnes dans un dancing prisé par une clientèle asiatique. Le tueur a ensuite tenté de s'en prendre à une deuxième salle de bal avant de se suicider dans son van, cerné par la police. Les enquêteurs ne savent toujours pas les motivations derrière ces 2 attaques.
Après Donald Trump et Joe Biden, Mike Pence se retrouve à son tour emporté dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche. L'ancien vice-président républicain a informé mardi le Congrès de la découverte de documents classés confidentiels à son domicile. Son avocat a informé les archives nationales. Mike Pence n'était pas au courant de leur existence, mais avait ordonné par précaution une fouille dans ses affaires après la découverte de tels documents chez Joe Biden, a ajouté Maître Greg Jacob dans un courrier reproduit dans les médias américains. Le sénateur républicain Lindsey Graham a appelé à faire toute la lumière sur cette affaire, ce qui était un problème politique pour les républicains, puis pour les démocrates, et désormais, selon lui, un problème de sécurité nationale pour le pays. L'Allemagne envoie des chars Léopard à l'Ukraine, a tweeté le Parti libéral-démocrate, membre de la coalition gouvernementale menée par le chancelier Olaf Scholz. Le dirigeant allemand qui doit s'exprimer ce mercredi à 12h GMT devant la chambre basse du Parlement allemand donnerait aussi son accord au pays, dont la Pologne, qui souhaite livrer des chars Léopard 2 à Kiev, selon ces médias. De telles livraisons n'apporteront rien de bon aux relations russo-allemandes. En revanche, réagit le porte-parole du Kremlin. Pour l'Ukraine, le soutien militaire et financier des alliés occidentaux est crucial. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussi défendu des décisions nécessaires pour avoir un État fort après qu'une série de responsables ont été démis de leurs fonctions dans la foulée d'une affaire de corruption. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par Mohamedou Onfa.
La situation macroéconomique de la RDC s'améliore, mais celle de la gouvernance est préoccupante, a estimé mardi à Kinshasa Albert Zefak, directeur des opérations de la Banque mondiale pour 4 pays africains, dont la RDC. Selon lui, le déficit budgétaire est resté sous contrôle à moins de 3%. La dette est l'une des plus basses des pays d'Afrique subsaharienne, à moins de 25% du PIB, et l'inflation est maîtrisée. Mais, a ajouté le responsable, la corruption prive les pauvres de leurs opportunités de développement. L'Ouganda a lancé mardi ses premières activités de forage dans les champs pétroliers de Kingfisher au lac Albert. Le président Yoweri Museveni a lui-même lancé la campagne de forage sur ce champ pétrolier qui devrait produire 40 000 barils de pétrole par jour. En 2025, selon l'autorité ougandaise du pétrole, ce champ pétrolier est opéré par la compagnie chinoise CNOOC. Et quelques 31 puits y seront situés. La directrice générale du FMI s'est déclarée mardi confiante quant à la conclusion d'un accord entre la Zambie et ses créanciers lors d'une visite dans ce pays d'Afrique australe massivement endetté. Le pays a amélioré ses relations avec les bailleurs internationaux depuis l'élection en 2021 du président Hakainde Hichilema. Le FMI a approuvé en 2022 un prêt de 1,3 milliard de dollars pour aider le pays à restaurer sa stabilité budgétaire.
Sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
CHAN Algérie 2022, pour commencer, les derniers matchs de la phase de groupe ont connu des surprises.
Oui, la Mauritanie s'est imposée dans le duel ouest-africain contre le Mali, 1-0 dans le groupe D. Les Mourabitoun A' finissent premier de cette poule et joueront les quarts. Les Aigles maliens, eux, sont out. Pareil dans la poule E, où le Niger a surpris le Cameroun 1-0 et a bouté les Lions indomptables hors de la compétition. On connaît ainsi toutes les affiches des quarts de finale. Deux matchs vendredi, le pays hôte, l'Algérie, fera face à la Côte d'Ivoire et juste après, le Sénégal affrontera la Mauritanie. Samedi, on aura Madagascar, Mozambique et Niger, Ghana.
Et Sadio Mané reprend la course avec le Bayern.
Touché début novembre au péroné droit et forfait pour le Mondial 2022, l'international sénégalais a effectué ses premières courses après plus de 2 mois d'absence du côté de la Sabener-Strasse. C'est bien de te revoir courir, a tweeté le Bayern Munich. Le club bavarois a accompagné le texte d'une vidéo de Sadio Mané, recrue phare des Munichois l'été 2022 en provenance de Liverpool, sortant du vestiaire, monté sur le terrain d'entraînement entouré de neige. Le temps est compté pour le finaliste de la Ligue des champions 2022 et deuxième au Ballon d'or 2022. Le Bayern Munich affronte dans 3 semaines le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en 8e de finale aller de la Ligue des champions le 14 février avant un match retour 3 semaines plus tard en Bavière.
Cyclisme Yacouba, la Tropicale Amissa Bongo est à sa 3e étape ce mercredi.
Cette étape 3 amènera le peloton de Lebamba à Mouila, 123 km. Hier, Jason Tesson a enlevé la 2e étape courue entre Oyem et Mitchich, 108 km. Le coureur français s'est imposé au sprint devant son coéquipier Emilien Janière et Alexander Salbi. Cette victoire de Jason Tesson n'a aucune conséquence sur le maillot jaune qui reste sur les épaules de Geoffrey Soup, vainqueur lundi de la première étape.
Enfin ici en NBA, Kevin Durant indisponible 2 semaines de plus, n'est-ce pas Yacouba?
C'est l'annonce faite par Brooklyn. La star des Nets soigne une entorse ligamentaire au genou droit occasionnée le 8 janvier. La franchise new-yorkaise ajoute qu'il va renforcer son genou, recommencer à courir cette semaine et participer à quelques phases d'entraînement et sera réévalué dans 2 semaines. 12 fois sélectionné au All-Star Game, Kevin Durant effectuait jusqu'ici une saison digne d'un potentiel MVP. 29,7 points, 6,7 rebonds, 5,3 passes de moyenne. en 39 matchs. Ses performances ont contribué au redressement opéré par Brooklyn. Après un début de championnat catastrophique, l'équipe a ainsi remporté 18 de ses 20 dernières rencontres avec Durant sur le terrain. Depuis, 6 matchs ont été joués sans lui, les 4 premiers se soldant par des défaites. Un choc attend les Nets ce soir à Philadelphie, deuxième à l'Est.
C'était les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manila Kidza, place au dossier du jour. Au Sénégal, l'opposant et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, dénonce son renvoi en procès dans une affaire de viol présumé pour laquelle il a été inculpé en mars 2021. Il maintient qu'il s'agit d'un dossier politique visant à l'écarter de la course à la présidentielle de 2024. Dans un entretien à VOA Afrique, il appelle la communauté internationale à écouter l'opposition sénégalaise, tout en rassurant que celle-ci prône l'ouverture sur le monde, malgré son discours souverainiste. Abdourahmane Dia s'est entretenu en exclusivité avec l'opposant Ousmane Sonko.
Évidemment, non, nous ne nous attendions pas à cette décision. Je crois que c'est un peu exagéré de qualifier ce dossier de dossier judiciaire d'ailleurs. Il y a une judiciarisation de dossiers politiques ou une politisation de dossiers judiciaires dans ce pays. Et ce dossier n'en fait pas exception. C'est un dossier strictement politique, un complot qui a été ouvert contre ma personne, un complot grossier d'ailleurs. Et c'est en cela que nous ne comprenons pas qu'un juge d'instruction, si on peut l'appeler comme ça, puisse renvoyer ce dossier en audience, en jugement.
La question qu'on se pose maintenant, irez-vous au procès si procès il y a?
Je crois qu'il est prématuré de vous dire ce que nous ferons. Nous discutons avec tous ceux qui sont autour de nous, que ce soit les avocats, mais également les parents, les militants et les sympathisants. Mais ce que je puis vous dire, c'est que nous considérons avoir suffisamment donné comme gage à l'institution judiciaire, mais que nous n'avons reçu en retour qu'une politisation d'un dossier avec un objectif très précis. Vous savez que dans 13 mois, il y a une élection présidentielle au Sénégal. Vous l'avez rappelé vous-même à l'entame, je suis candidat à cette élection présidentielle. Et vous savez également que nous faisons partie des acteurs les mieux placés aujourd'hui pour remporter cette élection présidentielle. Nous avons un président de la République qui est là depuis 10 ans, qui doit faire son deuxième et dernier mandat, qui n'a plus le droit à candidater, mais qui nous a habitués à une méthode qui est d'utiliser la justice, d'instrumentaliser la justice pour éliminer des adversaires politiques.
Qu'attendez-vous aujourd'hui de cette communauté internationale dans le cadre de cette crise? Vous pensez qu'elle s'intéresse assez à ce qui se passe au Sénégal?
Je n'en sais pas grand-chose pour dire vrai, mais je pense que nous sommes dans un monde très ouvert. Et la communauté internationale doit s'intéresser à ce qui se passe au Sénégal et en Afrique de manière générale, mais de manière équilibrée. Elle doit écouter toutes les parties. Ce que l'opposition sénégalaise déplore, c'est que nous n'avons pas souvent de contact avec cette communauté internationale. C'est comme si nous étions de PC carré. Elles écoutent exclusivement la version du régime de Macky Sall. Donc, quand une opposition est majoritaire dans un pays, je crois qu'elle mérite un peu plus d'écoute et de considération de la part de cette communauté internationale. Et rassurer cette communauté internationale que nous sommes des républicains.
Ousmane Sonko, président du parti d'opposition sénégalais, PASTEF. Vous pouvez suivre la longue version de cet entretien sur voafrique.com et sur nos plateformes digitales.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Burkina Faso, cela fait un an que le président Roch Marc Christian Kabore a été renversé par un premier coup d'État du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sandaogo. 8 mois plus tard, ce dernier sera à son tour renversé par le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis un an, Le pays est aux mains des militaires. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Un jour pour jour que le pays est dirigé par des militaires. Ils ont pris le pouvoir au regard de la dégradation de la situation sécuritaire sur Roc Kabore. Dans les rues de Ouagadougou, des Burkinabés réagissent.
Un an après, disons que les militaires sont toujours là. Maintenant, bon, ils sont venus normalement pour disons, régler la situation sécuritaire. Bon, on ne va pas dire que le problème a été réglé en un an, mais qu'il y a des points positifs. Sur l'aspect démocratique, je pense qu'on a un peu reculé. Mais je pense que tout ça peut se justifier. Voilà, on était dans une situation un peu désespérée. Voilà, qu'il fallait trouver une solution rapide pour pouvoir en fait, relever les défis.
Je peux dire que Roc, comme lui, il n'est pas militaire. Et nous sommes dans une situation où il faut ces gens-là pour voir comment ça peut se résoudre. Donc je me dis que c'est à cause de ça aussi qu'il souffrait. Sinon, ce n'est pas pour dire que ce n'était pas un bon président. Voilà, il était un exemplaire, mais bon, imaginons s'il n'y avait pas de terrorisme, on n'avait pas de problème avec lui. Voilà. Et après, je suis sûr qu'après ces deux mandats, bon, je sais qu'il allait laisser. Voilà, pour raison, la démocratie, par exemple, nous sommes en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est 5 ans, deux fois renouvelable. C'est fini.
Malgré l'arrivée des soldats au pouvoir, la situation n'a pas beaucoup changé sur le plan sécuritaire selon des observateurs. Cette analyse essaie d'expliquer ce qui a conduit à la chute de Roc Kabore. Blaise Kitega, analyste politique.
Depuis la prise du pouvoir donc par les militaires, on a assisté dans la première dynamique. Donc la situation ne s'est vraisemblablement pas améliorée à tous les niveaux. Roc Kabore a hérité aussi d'une armée. Comme l'a rappelé beaucoup de ses prédécesseurs, une armée qui était visiblement divisée, une armée aussi qui n'a pas, de mon point de vue, su garder son âme. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on est obligé de reconstruire tous les différents pans de notre dispositif sécuritaire.
Roc Kabore a été réélu en 2020 après un premier mandat. Dès son arrivée au pouvoir, le pays a subi plusieurs attaques terroristes qui ont fait des milliers de morts et plus d'un million de déplacés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
En République démocratique du Congo, la sécurité continue à être un problème à 11 mois des élections. L'enrôlement des électeurs vient d'être prolongé de 20 jours dans la partie ouest du pays et commence dans le sud et le sud-est. Pour en parler, Eddy Issango a reçu dans nos studios le président de la Commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale, Bertin Mubonzi.
La République démocratique du Congo est en train de traverser un moment de changement. Hein, et lorsque le changement arrive, il y a beaucoup de choses et de tumultes qu'on observe. Mais si ça va aller dans le sens de permettre à la République de retrouver la paix, la sécurité, je crois que c'est des initiatives très louables et nous ne pouvons qu'encourager cela.
Vous avez vu la montée d'insécurité à Ituri quand même. Hein. On parle de tuerie de plus en plus.
Bon, là vous citez une région d'ailleurs qui est sous état de siège. Nous avons l'Ituri et la province du Nord Kivu. J'en connais quelque chose pour avoir évalué l'état de siège au niveau de la Commission Défense et Sécurité, pour avoir effectué plus de 4 missions avec le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement afin d'évaluer cette situation sur terrain. Je peux vous rassurer par rapport à tout ce qui est en train d'être fait et une réunion d'ailleurs qui est préparée autour du commandant suprême pour que nous puissions lever les options et savoir quelle pourra être la suite à réserver à ces deux provinces pour essayer d'améliorer encore les choses sur le plan sécuritaire. Mais il y a un grand travail qui est en train d'être fait là-dessus. C'est peut-être pas les lieux d'en parler, mais rassurez-vous que toutes les institutions aujourd'hui, par rapport à la volonté exprimée par le commandant suprême, sont mobilisées et nous travaillons pour que nous puissions garantir la paix et la sécurité à nos populations.
Et à Fizi, et d'ailleurs vous avez vu, je crois, aussi que certains groupes de milices commencent à monter, même dans les Maniema, à tabasser les gens, tout ça, à instaurer leur ordre. Qu'est-ce que vous dites de tout ça?
Bon, ce sont des douleurs d'enfantement. Je crois qu'il y a un processus, effectivement, qui est en train d'aller vers sa fin. Et tout ce que vous observez, ce sont des agitations juste pour montrer que nous existons, mais très bientôt, ça n'existera plus.
Bientôt avant la tenue des élections de 2023 pour que les gens votent en paix?
C'est l'objectif du commandant suprême et il a le soutien de toutes les institutions par rapport à cela et de toute la population congolaise.
Bertin Mobonzi, président de la Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée nationale de la RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
En France, l'emblématique baguette de pain subit durement les retombées de la guerre en Ukraine. Pourtant, elle a été récemment inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Lundi, les boulangers français sont descendus dans les rues de Paris pour protester contre la flambée des prix de l'énergie et d'autres produits qui, selon eux, mettent en péril leurs activités. Depuis la capitale française, le reportage est de Lisa Bryant, le récit avec Lionel Lunaniragaima.
Denis Durand commence ses journées de travail à 3h30 du matin pour cuire les baguettes et les croissants qui sont la base des petits déjeuners français. Sa boulangerie biologique, située dans l'Est parisien, est une entreprise familiale de 6 décennies. Mais aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts.
À la fin, c'est qu'on voit que l'argent part, rentre plus dans les caisses, mais on n'a pas l'impression d'être vraiment soutenu. On a l'impression qu'on nous promet des choses, qu'on va nous dire on fera en sorte que, mais on ne voit rien arriver.
Comme beaucoup d'autres boulangers, Durand fait de la flambée de prix depuis le début de la guerre en Ukraine et l'embargo de l'Union européenne sur l'énergie russe.
Alors moi aujourd'hui, j'ai la chance, je dis bien j'ai de la chance, ça n'a fait que multiplier par 2. Et je dis j'ai de la chance. Et quand je dis ça peut paraître ridicule parce que multiplié par 2, c'est déjà énorme. Mais comme je sais qu'il y a des collègues qui ont été multipliés par 5, par 6, etc., je me dis que je m'en tire plutôt pas mal. Et ben ils ont augmenté le prix de la farine. Donc là, on a eu une première augmentation qui était assez conséquente.
Pour aider à faire face, les autorités françaises ont annoncé un soutien de 33 000 boulangers artisanales et autres petites et moyennes entreprises du pays. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Cette mesure exceptionnelle, c'est l'engagement qu'ont pris tous les fournisseurs d'énergie, sans exception, d'accepter de résilier des contrats lorsque les prix ont explosé de manière prohibitive et insupportable pour certaines entreprises de boulangerie au cas par cas, et de résilier ces contrats sans frais pour le boulanger.
Il a également appelé les fournisseurs d'énergie à renégocier les contrats des boulangers en cas d'explosion des prix de l'énergie. La manifestation était organisée par le collectif pour la survie des boulangers et artisans. Le boulanger Frédéric Roy, originaire de Nice, dans le sud de la France, a cofondé le groupe des boulangers artisanaux qui disent que l'aide annoncée par les autorités n'est pas suffisante. Le boulanger Denis Durand s'est senti obligé lundi de rejoindre ses collègues dans les rues de Paris pour manifester contre la flambée des coûts. Frédéric Roy exprime toutes ses craintes pour l'avenir.
L'État a mis une aide en place, mais cette aide ne suffira pas à protéger les artisans.
Cependant, tous les groupes de boulangers ne sont pas à bord, car certains syndicats ne se sont pas joints à la manifestation. Franck Thomas, qui dirige un syndicat de boulangers de la région parisienne, estime que négocier avec le gouvernement pour obtenir plus de soutien est plus efficace que de manifester.
Parce que ceux qui vont faire grève, ils n'ont pas de solution, ils n'ont rien à demander de plus que de ce qui a été demandé. Perdre une journée de travail, c'est toujours une journée de travail de perdu. Et puis, ils sont contre les fédérations et les confédérations. Donc, aujourd'hui, tout le travail qui a été fait, ça a été porté par les confédérations. Donc, faut en tenir compte.
Le boulanger, Denis Durand, lui, n'est pas de cet avis. Il essaie de faire des économies de bouts de chandelle et dit que ce n'est pas suffisant. Les boulangers, comme lui, sont la force vive du pays car le pain est toujours incontournable sur les tables françaises. Mais aujourd'hui, les boulangers ont l'impression d'être les derniers servis.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Fatouma Kalala Alimassi a également assuré la mise en onde. Merci à toute l'équipe de rédaction. À la présentation, Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, sur votre site internet voafrique.com, sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.